Oui, bonjour Daniel, bonjour à toute l'équipe. J'appelle pour vous remercier. Cette chanson de Craon me fait toujours chialer. Et je dois dire qu'avant de l'écouter sur La Bassie J'y suis, je ne connaissais pas cette chanson. Et donc, tu l'as déjà passée, je crois, il y a 3-4 ans. Et à cette époque, je travaillais dans une rédaction et je mettais la chanson à fond. Et ça emmerdait mes collègues. J'adore cette chanson. Voilà, à plus.
Bonjour monsieur, je regrette de ne pas vous avoir pu appeler avant. Je viens d'écouter votre émission sur... Oh là, écoutez, je ne peux plus parler. Dans le chemin des dames. Et comme j'ai 94 ans et que mon père a été tué en juillet, au mois de mai 17, c'était pour corroborer tout ce que vous avez dit, tout ce que je me souviens que mon père m'a dit, etc. Bon, eh ben, je regrette de ne pas vous avoir eu avant. Allez, au revoir monsieur.
Bonjour. Je m'appelle Philippe et j'écoute là l'émission sur Craon. Et mon grand-père était dans les tranchées. Et je me souviens qu'il en pleurait encore 50 ans plus tard. Et quand il y avait une fête, il chantait toujours une chanson, parce que j'entends la chanson de Craon, qui s'appelait Les Deux Mères. Et c'était l'histoire de deux mères qui avaient leur fils, donc, dans les tranchées, etc. Et dont l'une perdait son fils et l'autre était déserteur. Et ces deux femmes, donc l'une avec les honneurs et l'autre avec la honte, avaient un désaccord fatalement. La chanson se terminait, l'autre était fier que son fils soit mort avec la médaille militaire, et la chanson se terminait par « Mais le mien, je le sais, vivant !» Et ça s'appelle « Les deux mères ». Mais je ne sais pas, je ne l'ai jamais entendu ailleurs. Je ne sais pas, je ne me rappelle plus des paroles. D'ailleurs, mon grand-père avait tendance à les perdre. Et il avait perdu ses galons de caporal. Il avait été cassé, quoi, pour l'avoir chanté dans les tranchées. Ma grand-mère reprenait en pleurant, lui rappelait la suite de sa petite voix de souris derrière pour lui redonner les paroles. Voilà. J'aimerais bien savoir si quelqu'un connaît cette chanson et si ça peut se retrouver.
Oui, je viens d'écouter l'émission là de Daniel Mermet sur la guerre de 14. Oh, j'ai trouvé que c'était merveilleux. Je me suis mise à pleurer car j'ai repensé dans ma grand-mère qui restait veuve avec deux enfants sur les bras et une boulangerie. Je remercie Daniel Mermet pour toutes ces émissions. C'est formidable. Il nous rappelle à tant de souvenirs. Merci à vous tous. Je vous embrasse. Thérèse de Cournet.
Bonjour. J'ai 68 ans. J'ai donc participé à la guerre d'Algérie, mais refusé de la faire. Je suis fortement antimilitariste, mais j'ai vu le chemin des dames. J'ai voulu voir ce lieu où a été massacré la plus forte densité d'hommes au mètre carré depuis toutes les guerres. Nous l'avons visité sous la pluie, et sous la pluie, les larmes se mêlaient aux gouttes. C'est abject. Tous ces braves généraux dont on fait l'éloge, toujours, eux, sont tous morts dans leur lit, et continuent à mourir dans leur lit. C'est les pauvres types qui laissent leur peau. Je haïs la guerre. Au revoir.
Dans le dernier Là-bas Hebdo, tu nous parles, Daniel, des malgré tout. Un bien beau mot pour désigner ceux qui résistent. Eh bien, c'est au nom des malgré tout que Mémoire à Vif organise les 9 et 10 novembre prochains à Limoges, au cinéma Le Lido et au théâtre de l'Union, un hommage aux résistances qui se sont manifestées pendant la Première Guerre mondiale. Il y aura des films présentés par Michel Bouzu, des débats avec Jean-Pierre Vernet, Jacques Tardy, Michel Agnew, des chansons de lutte avec un concert de Dominique Grange accompagné au piano par Philippe Mira. Et le dimanche 11 novembre, les malgré tout se retrouveront à 11h pour le rassemblement pacifiste qui a lieu chaque année devant le monument aux morts de Jean Sioux en Creuse, où le point levé du petit écolier nous engage à ne pas oublier que maudite soit la guerre. Renseignements sur le site www.mémoireavif.info.
Oui, bonjour, Daniel Mermet. Je viens d'écouter ton émission sur la chanson de Graon qui m'a rappelé des souvenirs vraiment douloureux, car maintenant j'ai 80 ans. Cette chanson, je l'ai entendue quand j'étais petite, car dans ma famille, on a beaucoup payé pour la guerre. Mon père en premier, puisqu'il est mort à 40 ans, il est revenu malade, gazé de la guerre de 14. J'avais 8 ans quand il est mort, et malheureusement, 25 ans après, on en a eu une autre. Bon, maintenant, je pense que du côté des Allemands, c'est terminé. Mais ça n'empêche pas d'autres guerres dans tout le monde entier. C'est lamentable. Et tout ça, et oui, je voulais dire une chose, c'est que tous ces généraux, ces criminels qui ont envoyé des hommes à la mort, ils ont des avenues, des boulevards à leur nom. Et je trouve ça honteux. Quand je vois l'avenue du maréchal Pétain ou le boulevard Mangin ou la rue Intel, ça me fait mal au cœur parce que je pense à tous les hommes qu'ils ont envoyés se faire tuer. Voilà. Au revoir.
Bonjour Mermet. Bonjour à tous. Les mutins de Craon, les fusillés pour l'exemple. En vérité, nous les voyons très mal. Nous les voyons poilus, moustachus, barbus et parfois quelque peu, disons, bossus, syphotiques. À la ressemblance de nos grands-pères, de nos grands-oncles, quand ils nous ont raconté leur Raon-l'Étape, leur Verdun, leur Chemin des Dames. Mais il faut le dire, les mutins, ils avaient la peau rose, ils avaient des fiancés, des petites sœurs, des jeunes épouses, des petits bébés. Les vieux, ceux qui ont pleuré pour avoir vu partir avant eux ceux qui étaient destinés à leur survivre, les vieux, c'était leur mère, c'était leur père, leurs parrains, qui les avaient chéris jusqu'à en faire des hommes debout. Ces jeunes mutins, au visage mutin, ces résistants, eh bien la gloire qu'ils méritent, c'est qu'on les prenne en exemple. Ils ont donné un sens suprême au mot résistance. Résistance, résistance. Gageons, parions que jamais Sarkozy, jamais l'un des siens, ne viendra au pied d'un monument aux morts déposer une fleur à la mémoire de ces héros, ces mutins qui sont morts pour l'honneur de la France et de toute l'humanité pacifique. C'était Jacques de Pantin, en Seine-Saint-Denis. Bonsoir.
Et tous ces messages sont arrivés avenue du général Mangin. Avenue du général Mangin, c'est-à-dire l'adresse de France Inter à Paris. 90 ans après, évoquer la chanson de Craon, qu'il faut prononcer Craon, c'est évoquer le chemin des dames, c'est évoquer les mutineries de 1917, mais c'est d'abord toucher le fond. Oui, toucher le fond de ce pays, de cette France, dont les échos remuent encore aujourd'hui, sans le savoir, dans d'autres résistances et d'autres mutineries très très actuelles. En tout cas, merci pour vos messages. On peut pas tous les diffuser, mais c'est bouleversant. C'est d'autant plus bouleversant que j'écoute ces messages depuis Bogota. On continue notre reportage en Colombie avec Guy Vanctil et Antoine Chao, et on essaye de comprendre, de dépeindre, on va essayer en tout cas, de dépeindre cette Colombie autour d'Ingrid Betancourt. Comment en est-on arrivé là? Comment cette femme est-elle depuis si longtemps otage? Qu'est-ce que c'est que cette société? Qu'est-ce que c'est que ce monde? On en apprend quand même de belles, si on peut dire, à chaque minute, en avançant, en essayant de comprendre. Et surtout, le chapitre le plus important, c'est la parapolitique. Comment les paramilitaires, les unités paramilitaires ont totalement investi le monde politique, ont complètement corrompu le monde politique, le monde des affaires, le monde de l'économie. Enfin, on vous racontera tout ça à notre retour. D'autres, aujourd'hui on continue, toujours sur le chemin des dames et autour de la chanson de Crâne. Je rappelle que ce sont des émissions revues et corrigées par l'équipe de la base Si J'y Suis, mais dont la première diffusion date de 97, il y a 10 ans. Voilà, donc Craon, Bon Baiser de Bogota, et auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la base Si J'y Suis, située avenue du Général Mangin à Paris, dans le 16e arrondissement, avec des échos quand même assez chauds de quelques résistances et pourquoi pas de quelques mutineries d'aujourd'hui.
Salut Daniel, c'est Régis. Je suis actuellement à la faculté de Nantes et il y a un de mes collègues qui t'a appelé dans l'après-midi pour te préciser qu'on avait voté le blocus et apparemment ça va être de courte durée puisque le président n'a pas hésité à nous envoyer quelques heures après le vote une compagnie de deux quarts de gendarmes mobiles plus une petite fourgonnette ainsi que la BAC et les RG en renfort bien sûr pour faire face à environ une cinquantaine d'étudiants. Ce qu'on déplore absolument. Donc voilà, voilà un petit peu le monde de Sarkozy, même les grèves seront désormais supervisées par les CRS. Allez, je te souhaite bon courage et bonne émission.
Bonsoir, le 6 novembre, au soir, la Sorbonne a été occupée, bien peu d'informations dans les médias officiels bien sûr, mais quand même ça rappelait l'intervention policière, l'évacuation policière qui a eu lieu, et l'occupation de la place de la Sorbonne par les policiers à 23h, rappelait les images du CPE, donc peut-être que c'est de bon augure. Il est temps maintenant peut-être que toutes les facs du pays soient occupées. Cette réforme que l'on vend aux étudiants comme étant l'autonomie des universités n'est, chacun peut le comprendre, que l'antichambre de la privatisation, la mise sous tutelle des facs par le patronat. Et donc, non seulement les étudiants, mais toute la société est concernée. Et puis, pourquoi pas espérer enfin que les confédérations syndicales organisent la convergence de tous les mouvements sociaux, parce que ça commence à bien faire. Merci.
Ouais, salut Daniel, c'est Germain, je suis étudiant à Amiens. En fait, on t'appelle parce qu'on a créé un comité de mobilisation ici sur la loi Pécresse, parce qu'on n'a pas envie que nos facs soient privatisées, on n'a pas envie que seule une élite sociale puisse avoir accès à l'université. Donc on est en mouvement, et ça depuis fin septembre, et puis malheureusement, on a des médias qui parlent pas du tout de notre mouvement, ou alors très rarement. Pourtant, aujourd'hui, il y a 8 universités qui sont bloquées. Il y a pas mal de blocages de conseils d'administration, et voilà, on commence à se mobiliser. On commence aussi à faire peur à certains présidents d'université. Donc, voilà, c'était pour prévenir que chez les étudiants, il se passait un peu quelque chose aussi. À Amiens, on est une toute petite université, il y a 22 000 étudiants, et on a déjà des AG où il y a à peu près 500 personnes. Voilà, c'est tout ce que je voulais te dire, Daniel, et merci pour ton émission, merci à toute l'équipe de la BAC Si J'y Suis, et puis là, ciao, voilà. Ciao.
Bonjour, restaurant La Bonheur, nous réunissons ce soir, le Café Repère de Grenoble donc se réunit ce soir à 18h30 au Café Restaurant La Bonheur. Venez nombreux, vous aurez à partager un petit verre et pourquoi pas une pizza ou autre chose, et puis surtout beaucoup de palabres. Allez, à ce soir, merci.
Oui, bonjour à tous, c'est Pierre de Belgique. Juste pour rappeler le repère de ce soir à Tournai. Alors Tournai, c'est près de Lille, mais c'est de l'autre côté de la barrière. C'est ce jeudi, c'est au Café des Amis réunis, à la rue Saint-Martin, à partir de 19h. Mais ma foi, rien d'autre à signaler que de la franche camaraderie et de la bonne humeur. Mais au prix du baril, c'est déjà pas mal.
Bonjour, le Café Repère Autunois, le Point Bar projettera jeudi 8 novembre à 20h, l'île aux fleurs. Un court-métrage qui dénonce une forme de commerce inéquitable. En attendant, le fameux DVD Chomsky et compagnie. Au revoir.
Bonjour, ce matin j'ai failli être énervé parce que je me suis renversé du lait sur le pantalon. Et si j'étais allé bosser, j'aurais été obligé de changer de frag. Heureusement, je vais pas bosser. Alors ça va, je le vis bien. Allez, bonne journée, hein, c'était Maxime.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas Si J'y Suis, au Chemin des Dames, à Craon.
Flight number 2.
Arrive. Il y a un type en 14 qui a dit « Je leur ai juste repris la longueur de mon corps. » Il est tombé et je leur ai repris la longueur de mon corps. 1m80, 1m70, 1m65, qu'est-ce que c'est? C'est de la terre, ça?
parlant de l'Arc de Triomphe, qui sait si l'inconnu qui dort sous l'arche immense, mêlant sa gloire épique aux orgueils du passé, n'est pas cet étranger, devenu fils de France, non par le sang reçu, mais par le sang versé. Ça fait le bonheur de Le Pen.
Et si sous cet arc de triomphe, les morts français de la Grande Guerre, comme on ose encore dire, si tous les morts français défilaient en rang par quatre, il faudrait 6 jours et 5 nuits avant que le dernier ne soit passé. Guerre de 14, 35 pays participèrent à cette boucherie. 10 millions de morts, combien d'années d'espérance de vie ensevelies à jamais dans la boue, combien d'orphelins, de mutilés, de veuves. 930 hectares de cimetières militaires en France ont poussé à la place de la bonne terre à blé ou des betteraves. 11 départements, 2907 communes, 485 600 hectares de forêt, 1 923 000 hectares de terres cultivables dévastées, 794 000 maisons immeubles, 9 332 usines, 58 967 km de route, 8 333 ponts détruits, soit 71 millions de mètres cubes de déblais. 330 millions de mètres cubes seraient nécessaires pour combler les tranchées des 780 km de front. Et tout ça a coûté combien, messieurs les marchands de canons ? 2 500 milliards de francs or. 3 595 000 blessés. 56 000 amputés. 65 000 mutilés. Quelques chiffres qui, évidemment, n'ont aucun sens, ne peuvent avoir aucun sens et n'en auront jamais. La question qu'on se pose depuis plus de 80 ans maintenant, c'est pourquoi cette guerre ? Historiens, chercheurs, témoins, combattants, anciens combattants n'ont pas trouvé la réponse. Comment a pu se produire ce recul de la civilisation toute entière, cette défaite de l'humain, que la guerre soit vue comme sacrée ou comme banale, ne donne pas la réponse. Pour moi, elle est dans un geste que faisait mon père. À la fin de certains repas, il écartait son assiette sur la toile cirée et il prenait un couteau et une fourchette. Il essayait d'expliquer ce qu'avait été le chemin des dames. Et ça, c'était Craonne. Voilà, ça c'est le verre, ça c'est Craonne. Et l'assiette, voilà, c'est le plateau. Et il fallait monter. Et on est monté. Une fois, deux fois, trois fois. Et puis, il arrivait au moment où il se souvenait d'avoir dû prendre à bras le corps d'un copain mort. Et alors, il se taisait. Et c'est dans ce silence-là que nous allons aujourd'hui, que je vous emmène aujourd'hui. Non pas comme quelque chose de sacré, ni de banal. Il y avait des causes à tout ça. Il y a des causes à tout ça. La réponse, elle est évidemment à chercher du côté de la beauté. Et la beauté, pour cette guerre, elle réside dans ces 4 vers de Guillaume Apollinaire. Il faut que je reçoive, ô mon loup, la mesure exacte de ton doigt, car je veux te sculpter une bague très pure dans un métal d'effroi.
Adieu au sifflot, même sans tambour. adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini et pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craon sur le plateau qu'il faut laisser sa peau, car nous sommes tous condamnés, nous sommes des sacrifiés. 8 jours de misère, 8 jours de souffrance, pourtant on a l'espérance que pour nous viendra la rêve que nous attendons sans trêve. Soudain dans la nuit et dans le silence, on voit quelqu'un qui s'avance. C'est un officier des chasseurs à pied qui vient pour nous remplacer. Semant dans l'ombre et la pluie qui tombe, les petits soldats vont chercher leur tombe. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini et pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craon sur le plateau qu'il faut.
Combien de vie a coûté cette chanson? Combien de corps en décomposition, puants, gonflés, parmi d'autres corps puants, gonflés en décomposition, parmi des corps de chevaux gonflés en décomposition? Combien en a-t-il fallu pour que cette chanson soit un beau jour chantée? C'était au printemps 1917. Après le chemin des dames, une formidable défaite, une des défaites les plus pitoyables de notre histoire, après l'attaque commandée par le général Nivelle le 16 avril, qui fut une défaite au bout de 10 jours de boucherie. On estime à 155 000 le nombre de victimes du côté français. Et alors, dans ce petit village de Craon, 69 habitants aujourd'hui, eh ben on entretient cette mémoire, mais d'une manière tout à fait vivante. C'est pas la mémoire rigoureuse et froide et nécessaire par ailleurs, bien sûr, de l'historien. C'est quelque chose qui concerne, qui regarde d'une manière très vivante et assez jubilante, pourquoi pas, les habitants de ce petit village. Alors, il y a le maire, Noël Janteur, il y a Yves Follen, qui vient en voisin, qui est un jeune homme qui est passionné par cette histoire de la guerre de 14. Et puis, il y a Dominique et Guy Marival, qui sont tous les deux profs d'histoire, très érudits, et qui travaillent là-dessus avec, leur, avec leurs élèves. Et puis, il y a des voisins, hein, les gens du village, monsieur Lablilois, monsieur Claude Madoré, monsieur de Courrèges, qui sont là et avec lesquels on va passer une heure. C'est de l'histoire, c'est de la mémoire, et c'est quelque chose de vivant et qui évidemment nous regarde tous au fond de ce que nous sommes.
C'est une chanson qu'on trouve actuellement dans pas mal de manuels, mais c'est relativement récent, parce que c'est une chanson qui a été interdite sur les ondes nationales de l'ORTF à l'époque, comme on disait, jusqu'en 1974. Et c'est une chanson, bon, moi, Dominique aussi, donc on a utilisé très très vite dans les années 70, dès qu'on a été enseignant. Mais en fait, au début, on l'utilisait dans les cours, hein, on faisait un petit peu à travers la chanson, si vous voulez, l'évolution de la mentalité des combattants. Avec.
En quoi est-ce que vous pouviez raconter cette guerre avec cette chanson ?
Il y a les premières chansons qui sont à la gloire des poilus. Hein, donc. On fait un premier exercice pour montrer l'état d'esprit nationaliste, on va les avoir, on les aura. Après, il y a toute une série de chansons comme Au bois le prêtre, où on commence à voir la mort qui apparaît.
Je vais chanter le bois fameux où chaque soir dans l'air brumeux rôde le boche venimeux à l'œil de traître où nos poilus au cœur altier contre ce bandit de métier se sont battus sans lâcher pied. Le bois le prêtre. On est terré comme un renard, on est tiré comme un canard. Si l'on sort, gare au traquenard où l'on s'empêtre. Dès que l'on quitte son bourbier, on reçoit un lingot d'acier, car on est chasseur de gibier. Au bois le prêtre. Tous les arbres y sont hachés. Et des Bavarois desséchés, là-haut, sont encore accrochés sur un vieux être. Ils y sont pour longtemps, dit-on, car même le vautour glouton vous a le dégoût du teuton. Au bois le prêtre.
On voyait les Bavarois desséchés dans cette chanson. Voilà.
Car même les vautours vous ont le dégoût du teuton, c'est... C'est terrible, je pense.
On est sale, on est dégoûtant. On a tout de l'orang-outan. On rit de ressembler pourtant à cet ancêtre. Dans la boue, on vit et l'on dort. Oui, mais se plaindre, on aurait tort. Dans moins d'une heure, on sera peut-être mort. Si du canon bravant l'écho, le soleil irise qu'un béco, on peut voir le coquelicot partout renaître. Car dans un geste de semeur, Dieu, pour chaque poilu qui meurt, distribue des légions d'honneur. Au bois le prêtre. Au bois le prêtre.
Parce que la chanson crâne, elle avait sa raison d'être dans les tranchées. Les gars, ils voyaient leurs copains tous les jours, un à un, tomber. Et maintenant, vous cueillez à froid des gens qui n'ont aucune idée de ce que ça pouvait être la guerre. Mm-hmm. On ne peut pas s'imaginer la chanson de Crâne. Maintenant, surtout sur des jeunes, ça ne représente rien. C'est une histoire politique pour les jeunes. Alors que pour les gars qui étaient à l'étranger, ce n'était pas une histoire politique, c'était leur peau qui était en jeu. C'est tout différent.
Oui, mais c'est quand même une histoire politique. Hein. Parce que,
pour eux, c'était leur vie. Ouais. Les gars qui l'ont vécu.
Il fallait avoir le courage de le dire en 1917, parce qu'on était quand même dans un climat de censure terrible.
Ils n'avaient plus rien à craindre. Le lendemain, ils seraient morts, ces gens-là. À l'occasion, ils sont morts. Ils sont morts le lendemain. Donc eux, ils n'avaient plus rien à perdre. Parce que nous, maintenant, même pour notre petite retraite, on fait gaffe, hein. On ne choque pas les gars qui vous la payent, hein.
Et puis, c'est pas seulement la révolte contre la guerre, parce que là, il y a des gens qui sont accusés. Hein. Ceux qui ont le pognon, ceux-là reviendront. Ça veut dire qu'il y a une réflexion sur les buts de la guerre, oui.
Non, mais c'est une révolte contre les généraux. Si on écoute bien la chanson, en fait, c'est pas sur le plateau, sur les tranchées, c'est les personnes qui sont à l'abri pendant que les gars se font casser la gueule, en fait.
Voilà. Alors, en prof d'histoire, racontez un peu cette offensive.
Bon, bah, cette offensive... le général Nivelle, c'est quelqu'un qui maintenant a plus tellement bonne presse, mais à l'époque, il était extrêmement populaire, et en particulier, c'est quelqu'un qui avait joué un rôle décisif, si vous voulez, à Verdun. Ça, faut pas oublier ça. C'est parce qu'il avait donc montré que l'artillerie jouait un rôle à Verdun, qu'on pouvait percer, si vous voulez, de façon très très localisée, qu'il a donc obtenu le commandement en chef de l'armée française, donc, puisque Joffre, il était usé depuis 14.
Joffre et Pétain avaient prévenu quand même le gouvernement de ne pas faire l'attaque Nivelle.
C'est ça, non, mais...
Et comme lui avait fait Verdun et avait quand même fait gros, automatiquement, ils l'ont laissé faire, ils ont laissé Nivelle prendre tout le commandement.
Il y a donc en fait toute une série de conflits politiques, il ne faut pas l'oublier, entre certains ministres, certains hommes politiques, donc qui sont pour les uns tenants de Nivelle, pour les autres tenants de ce qui va être Pétain finalement. Hein. Mais quand même, on donne d'une certaine façon carte blanche à Nivelle, enfin au moins un certain nombre d'hommes politiques donnent carte blanche à Nivelle, parce que Nivelle a dit, moi en 48 heures, je fais la percée et à H plus 24, je dors à l'an. Quoi.
Quand ils ont attaqué à 6 heures du matin, ils auraient dû s'arrêter à 6h30. Et Nivelle a voulu absolument continuer.
Ça durait un jour, deux jours, trois jours, quatre jours avant que ça s'arrête.
Ils ont relaté que l'état-major a été au courant qu'il fallait arrêter, que c'était un échec. Et on a continué.
Et c'est la plus grosse boucherie de l'histoire d'une boucherie.
Ça peut se discuter, parce que vous savez...
Dans le concours des boucheries
Dans le concours des boucheries, il y a quand même
la
pas
somme,
mal...
La Somme, c'est bien aussi.
La Somme, c'est pas mal, hein, en juillet 1916. Ce qui est pas mal non plus, c'est les premières semaines de la guerre de 14. Et ce qui est pas mal non plus, et ça, on a tendance vraiment beaucoup à l'oublier, c'est mai-juin 40. Hein, parce qu'en 6 semaines, vous avez eu quand même un nombre de morts qui était très, très important. Mm-hmm. Alors, vous savez, les boucheries...
La chanson, elle n'est pas née là, elle n'est pas née sur le front. Les mutineries, ce n'est pas des gens au front. Il y a eu très peu de mutineries au front. Hein. Les gens qui refusent de sortir des tranchées sont très rares. En fait, ce qu'il y a, c'est les gens qui refusaient de remonter au front. Hein, c'était à l'arrière, au repos, à quelques dizaines de kilomètres. Voilà. C'est là qu'on chantait cette chanson-là. On ne la chantait pas dans les tranchées. C'était interdit, de toute façon. La chanson
N'oublions
officielle.
Pas que toutes les armées, puisque c'était une guerre mondiale, ont eu ce style de chanson. La fameuse chanson des Anglais qui demande « Où est le sergent ?» Il est accroché au barbelé.
Et du côté allemand, aussi, il y a une chanson analogue sur le...
Disons que du côté allemand, quand on pouvait chanter, c'était bien. Mais ceux qui ont essayé de chanter des chansons pacifistes, en général, ont terminé très rapidement leur vie devant un poteau d'exécution, souvent. Et c'était surtout dans le 18.
Et ce qui est quand même très, très frappant dans la chanson de Crâne, c'est pas seulement une chanson pacifiste, c'est pas seulement une chanson antimilitariste, où on annonce que les soldats vont se mettre en grève, c'est aussi une chanson révolutionnaire. Il y a quand même un contenu révolutionnaire, un contenu de lutte de classe.
L'idée de grève, l'idée de lutte de classe.
Alors après... Est-ce qu'on peut dire que c'est une sorte de complot est-ce qu'il y a une sorte de grand complot révolutionnaire? Je crois qu'il faut... Il y en a qui l'ont dit, mais...
On a essayé d'accréditer cette version-là après.
C'est vraiment... C'est vraiment aller trop loin.
Mais quand même, ces bidasses, ces soldats de l'infanterie, etc., c'était qui? C'était plutôt des prolos, c'était plutôt des paysans?
Ah, c'est plutôt des paysans. Oui. La grande majorité, bon, faut pas oublier qu'à l'époque, la France,
c'est rural.
C'est quand même une France rurale, que les combattants de 14-18, côté français surtout, mais dans les autres pays, c'est la même chose, sont d'abord des paysans. Hein. Et c'est d'ailleurs sont les paysans qui fournissent le plus lourd tribut, en fait, hein, aux victimes du conflit.
C'est eux qui ont une prise de conscience. Moi, j'avais un grand-père paysan qui raconte qu'en 1914, il est parti ravi, content, il allait faire la guerre, il allait gagner, il allait voir du pays.
On criait à Berlin, à Paris.
Oui, oui.
Il partait pour 6 mois.
Oui, on y va, on revient.
Et sa prise de conscience, elle s'est faite sur le front, parce que là, il a rencontré des ouvriers, il a rencontré des gens qui avaient l'habitude des luttes sociales. Et mon grand-père s'est jamais réadapté à la vie, à la campagne. Il est devenu ouvrier, il est parti en ville après la guerre, parce que ça lui avait aussi quelque part éveillé l'attention sur ce qui se passait dans le monde. Alors que du fond de sa campagne, c'est pas qu'il était patriote, je crois qu'il... Bien sûr, il y avait l'influence des instituteurs, mais il était surtout inconscient du fait que la guerre, elle a des responsables, qu'il y a eu des décisions politiques de prise.
Oui, enfin, n'importe comment, les luttes sociales ne sont pas nées quand même avec la chanson de
absolument
de
pas, non.
Mais il y avait des luttes sociales en France
absolument,
qui étaient...
Mais les luttes sociales, on peut dire, ressurgissent en 1917 dans la chanson de Craon.
C'est ça.
Alors que, disons, pendant les premières années de la guerre, bon, c'était ce qu'on appelle l'union sacrée, hein, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de partis différents, il n'y avait plus que des Français.
Il y a une chanson qui dit « L'international, on la chantera au retour ».
Oui. Ça, c'est la lettre... Vous connaissez, c'est une chanson de Montéus qui s'appelle « La lettre d'un socialo ».
Ce qu'il faut, pas de critique, encore moins de politique, qu'on dit à Monsieur Gervais qu'il garde pour lui son histoire, nous gardons pour nous la gloire, à nous battre en bon français. Qu'il sache que dans la fournaise, nous chantons la Marseillaise, car dans ces terribles jours, on garde l'international pour la victoire finale, on la chantera au retour.
Je pense qu'il faut quand même pas trop sophistiquer l'état d'âme des soldats. Dire que c'est sûr que la conséquence après, entre 1920 et 1930, on a travaillé là-dessus. On s'est aperçu qu'il y avait... C'est comme une plante qui pousse, si vous voulez, tant qu'elle est sous le sol, on ne le voit pas. Et je pense que pendant la guerre 14-18, c'est vrai que tout ce phénomène-là révolutionnaire, de conscience, de partage, de connaissance de l'autre groupe social, ça a existé. Mais les fruits ne sont arrivés qu'après la guerre. Dire que, à mon avis, les gars qui étaient sur le front ou qui ont fait la guerre pendant 4 ans, la première chose qu'ils pensaient, c'est bouffer et sauver leur peau, vous voyez.
Alors, quel lien on fait ensuite, là on suit le parcours historique, entre cette attaque et les mutineries?
Ah ben, c'est l'évidence même. Bon, c'est l'échec, alors qu'on avait, on pensait que c'était la dernière, quoi, la dernière offensive.
Ouais, c'est toujours bon. La dernière délai,
oui. Oui, mais là, c'était vraiment, bon, encore un effort, et puis on les aura. Bon, et puis là, en fait, on les a pas, puis on piétine, et puis on se fait plier par les mitrailleuses. Bon.
Les soldats français n'étaient pas tués par les Allemands, mais aussi par notre artillerie lourde, qui artillait sur la première ligne, parce qu'ils n'arrivaient pas sur la ligne allemande.
On le voit dans le fameux film Les Sentiers de la Gloire de Kubrick, hein. Alors bon, c'est sûr que là, il y a vraiment, effectivement, un ras-le-bol. Enfin, les poilus n'imaginent pas de remonter une nouvelle fois à l'attaque. Bon, ça c'est évident. Et c'est donc, lorsqu'on les retire, on retire les unités donc, du front même, et on les envoie au repos donc, à quelques dizaines de kilomètres d'ici, donc dans la Marne, dans l'Aisne, enfin... C'est là qu'il y a effectivement, lorsqu'on leur dit bon ben vous allez repartir, non ils disent non c'est plus possible, on n'y va plus. Enfin c'est là qu'il y a quelques
quelques actes d'indiscipline, de mutinerie, des injures ou des coups.
Beaucoup d'injures, beaucoup d'injures, ce qui était le type officiers. De mutinerie le plus fréquent, en fait, c'est le soldat qui ne salue pas et qui traite le sous-officier.
De grosses vaches, ouais.
Oui.
Mais c'est quand même un phénomène qui reste minoritaire. Enfin, on estime qu'il y a à peu près, 30 000, 40 000 cas de mutinerie, et encore, peut-être grand maximum. C'est pas, alors qu'on a quand même 8 millions de mobilisés. Hein,
oui, mais...
Et moi, ce qui m'interpelle, c'est pourquoi finalement ça n'a pas débouché sur quelque chose de très fort. Parce que 1917, c'est l'année terrible, il se passe des choses en Russie, et en France, finalement, Pétain, il arrive à calmer tout en si peu de temps.
Il y a un groupe de soldats qui avait envisagé donc de repartir vers Paris, et qui a été arrêté donc dans la forêt de Villers-Cotterêts.
Le train a été arrêté.
C'est ça.
Ah, qu'est-ce qu'ils voulaient, ces gars-là ? Qui c'était, ces gars-là ?
Bah ça, j'en sais rien. J'en sais pas plus que ça. Je sais qu'ils ont été après jugés donc par un tribunal militaire qui siégeait à Soissons et condamnés, pas d'ailleurs à mort. Mais là, on avait. Je pense qu'il y a quand même là une. On va au-delà, si vous voulez, de l'acte d'insoumission. Il y a quand même une sorte de projet collectif révolutionnaire, si on veut. Des gens qui vont à Paris, quoi. Enfin,
j'essayais de faire que l'arrière suive, parce que dans tout ça, dans la chanson de Crâne, c'est que sur le front, finalement, qu'on a cette mutinerie. L'arrière continue à être revanchard, à dire, à écouter ce que dit la propagande et à dire.
C'est ça, le mouvement, quand dans la chanson on dit sur les grands boulevards, tous ces gros qui font la foire. C'était ça, là, Paris était...
Bah, ça, on dit, bah oui, bon, on le dit toujours, les soldats qui arrivent, bon, parce que, vous savez, il y a tout ce trafic énorme ferroviaire, hein, les soldats qui arrivent, gare du Nord, gare de l'Est, qui ensuite traversent Paris, qui vont prendre la gare du Lyon, gare Montparnasse, bon, pour aller, donc, retourner dans leur province en permission, et en fait, ils voient, effectivement, les cafés qui sont pleins, ils voient les gens qui sont avec des femmes, bon, il y a tout ce problème de la frustration
aussi sexuelle. Les théâtres
qui sont bondés.
C'est malheureux de voir sur les grands boulevards tous ces gros qui font la foire. Si pour eux la vie est rose, pour nous c'est pas la même chose. Au lieu de se cacher, tous ces embusqués feraient mieux de monter aux tranchées pour défendre leurs biens, car nous n'avons rien, nous autres puritains. Tous les camarades sont enterrés là pour défendre les biens de ces messieurs-là. Ceux font le pognon, ceux-là reviendront, car c'est pour eux qu'on crève. Mais c'est fini, car les troufions vont tous se mettre en grève. Ce sera votre tour, messieurs les gros, de monter sur le plateau. Si vous voulez la guerre, payez-la de votre peau.
Et l'état-major avait offert une somme considérable à qui dénoncerait les auteurs ou l'auteur des paroles de cette chanson, et promettait aussi à ceux qui dénonceraient la libération. Le mot était celui-là, bel et bien libération. Bien personne n'a jamais cafeté, personne n'a jamais dénoncé l'auteur de cette chanson, si bien qu'il y a un homme, si toutefois il y en a qu'un, il y a peut-être plusieurs auteurs, qui a jamais resté anonyme. On devrait faire un monument à cet homme-là, qui pourrait s'appeler le monument du poète inconnu.
Oui, bon, la répression, les chiffres. Alors pendant très très longtemps ont été énormes, hein, oui. Parce que étant donné qu'on n'avait pas d'éléments, si vous voulez, bon, il y avait tout ce qu'on disait, toutes les rumeurs. Bon, on a parlé de décimation, bon, c'est-à-dire qu'on prenait sur un régiment un homme sur 10, donc, et on le passait par les armes. On a parlé d'exécution sommaire.
Décimation, excusez-moi, oui. Décimation, c'était un terme qui était utilisé quand on a dit que certaines unités avaient été envoyées plusieurs fois exprès contre des barbelés et des mitrailleuses pour que les gens qui faisaient partie de ces unités-là disparaissent, et notamment des régiments du Midi de la France qui avaient participé, ou soi-disant, qui avaient participé à des grèves avant la guerre.
17e. Gloire au 17e.
Gloire au 17e, Montéus. Ah, qui a payé pendant.
Salut, salut à tous. Bravo soldats, l'unique mec qui aime. Salut, bravo piou-piou. à quoi vous admirez. Salut, salut à vous, à votre geste magnifique. Vous auriez, en tirant sur nous, assassiné la République.
Ainsi ils ont payé, plus tard ces soldats du 17e qui avaient refusé de tirer sur des paysans qui protestaient par solidarité, disons de classe, allons-y. Et bien donc on apprend qu'ils ont payé ça plus tard au cours de cet assaut du chemin des dames. On est donc à Crâne, il faut dire absolument Crâne, avec le maire de Crâne, Noël Janteur, avec Dominique et Guy Marival qui sont historiens, avec Yves Follen en train de parler, d'évoquer de façon vivante, de façon comment dire, vécue, voilà, c'est ça, cette guerre qui reste évidemment en grande partie une énigme. Comment a-t-on pu à ce point voir la civilisation reculer, cette défaite pour l'humain? Mais il se trouve des gens comme cela, et comme vous et comme moi, j'en suis sûr, qui refusons de croire que tout ça est dépourvu de cause.
Ce qui s'est passé, c'est que pendant très longtemps aussi, les archives ont été interdites. Bon, là, c'est toujours le problème.
Pas accès.
C'est pas accès aux archives. Il a fallu attendre donc la fin de la guerre d'Algérie, les années 60, en fait, hein, pour que les historiens puissent avoir, et encore certains historiens, donc, puissent avoir accès aux dossiers, notamment de la justice militaire. Et là, on s'est aperçu, donc, il y a eu à peu près, donc, je cite de mémoire, il me semble, c'est 1300 mutins, ou supposait-elle, donc, ils sont passés devant des cours de justice, qui a eu donc à peu près 450 condamnations à mort. Et en fait, il y a eu seulement donc 48 ou 49 fusillés, effectivement. Oui. Alors ça, c'est bon, ce sont les chiffres officiels. Est-ce qu'ils sont justes?
Oui. Encore une fois, je crois qu'il faut oublier les chiffres. Il faut savoir qu'il y a des gens, malheureusement, qui ont été pris au hasard et fusillés alors qu'ils n'avaient rien fait. Oui. Et c'était des types qui parfois étaient décorés.
Oui, parce qu'il y en a un qui s'était engagé en voyant toute sa famille se faire décimer par les Allemands, et donc s'est engagé dans le combat pour venger sa famille et est passé au peloton d'exécution. Il était sergent.
Pourquoi fusiller des hommes? Pourquoi ne pas simplement les avoir mis en prison? Pourquoi fusiller des hommes?
C'était l'exemple, vous voulez faire.
C'est aussi le règlement militaire.
L'armée australienne n'a jamais fusillé un soldat.
Mais c'était beaucoup plus simple. Évidemment. C'était quand même plus simple d'éliminer ceux dont on avait remarqué qu'ils avaient été à la tête d'une mutinerie. Il suffisait de les désigner comme volontaires pour aller faire une mission de reconnaissance, aller couper les fils de fer barbelés. Celui qui était désigné, il savait très bien ce que ça voulait dire. Hein. Ça voulait dire qu'il allait y passer. Donc je crois que beaucoup de mutins qui avaient été repérés par les officiers comme étant à la tête ont été éliminés d'une manière très très discrète de cette façon.
Et alors là, on n'aura jamais de chiffres. Hein.
Donc, les exécutions, vous dites, ne donnent pas, enfin les chiffres qu'on a aujourd'hui ne donnent pas une idée de ce qui s'est passé dans les consciences et ce que ça portera par la suite dans la...
Certainement pas. Et par exemple, imaginez l'officier qui a reçu justement ces injures, qui a été sans doute blessé un jour de mai 1917, qui a pris ça en pleine figure, si vous voulez, qui en a gardé sans doute une blessure d'amour-propre très profonde. Il suffit qu'il se retrouve peut-être avec ce même soldat, évidemment, ou un autre qui était dans le groupe, ou un copain, et c'est sûr que cet officier, il ne va pas hésiter à désigner quelqu'un qu'il suspecte de mauvaises idées, si vous voulez, pour l'envoyer effectivement à la mort lors d'une mission dangereuse. Bon, et ça, comment voulez-vous le comptabiliser? Bon, est-ce que ça a été un cas? Sans doute. Il y en a. Est-ce que ça a été des dizaines, des centaines? On n'en sait rien.
Tu n'en reviendras pas, toi, qui courais les filles, jeune homme dont j'ai vu battre le cœur à nu, quand j'ai déchiré ta chemise, et toi non plus. Tu n'en reviendras pas, vieux joueur de manie. Que Nobu a coupé par le travers en deux, pour une fois qu'il avait un jeu du tonnerre. Et toi, le tatoué, l'ancien légionnaire, tu survivras longtemps sans visage, sans yeux. On part, Dieu sait pour où, ça tient du mauvais rêve. On glissera le long de la ligne de feu. Quelque part, ça commence à n'être plus du jeu. Les bons hommes là-bas attendent la relève. Roule au loin, roule le train des dernières lueurs. Les soldats assoupis que ta danse secoue laissent pencher leur front et fléchissent le cou. Cela sent le tabac, la laine et la sueur. Comment vous regardez sans voir vos destinées, fiancés de la terre et promis des douleurs, la veilleuse vous fait de la couleur des pleurs, vous bougez vaguement vos jambes condamnées. Déjà la pierre pense où votre nom s'inscrit, déjà vous n'êtes plus qu'un mot d'or sur nos places, déjà le souvenir de vos amours s'efface, déjà vous n'êtes plus que pour avoir péri.
Qu'on est en train de parler de choses qui se sont passées hier.
C'est à côté. C'est juste
pour vous, c'est pas hier, mais c'est à côté. Quoi.
C'est pas hier, mais c'est même ici.
Vous êtes dedans. Quoi. Oui, il n'y a pas de passé, il n'y a qu'un présent, puisque vous êtes plus vivant.
L'histoire est toujours en marche. Les gens qui trouvent des obus dans les champs, c'est la guerre de 14. Il y en a qui meurent tous les jours, peut-être encore. On parle des mines, peut-être encore.
Il y a encore des paysans qui meurent à cause des ovules de 14. Faut pas oublier, il y en a toujours dans les champs, et il y en a dans les bois, nos gosses peuvent aller se promener dans les bois. Il y a quelques années avec mon grand-père, c'était les grenades dans les chemins, c'est tout ça.
Diffusion du reportage de Daniel Mermet, la chanson de Craon, épisode 2, même si j'ai bien compris qu'il fallait dire non pas Craon, mais Crâne. Merci donc à tous les habitants de Crâne pour leur témoignage, et merci aussi à Raïssa Blankoff qui a participé à la préparation de l'émission. Pour en savoir plus, à lire « C'était la guerre des tranchées » de Jacques Tardy, paru aux éditions Casterman. Et puis d'autre part, l'équipe de Là-bas vous signale qu'une nouvelle version du film du réalisateur britannique Peter Watkins, La Commune, c'est le titre du film, est sortie sur les écrans. C'est une création hors norme qui réunit plus de 200 participants pour interpréter l'expérience de la commune du point de vue des gens du peuple. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter, franceinter.com, à la rubrique émission Là-bas, si j'y suis. À la technique, aujourd'hui, Jean-Philippe Jeanne et Alain Arnstam. Réalisation Yann Chouquet et Coyen Guyenne. Assistante Charlotte Perry, bien sûr, et chef du répondeur, c'est Christophe Humbert, que vous pouvez joindre, en tout cas vous pouvez lui laisser un message, au 01 56 40 37 37.